مقاومه بالقلب والعقل.
C'est un extrait de ce que c'est de vivre dans un environnement où il y a on est entouré de domination, de voilà, d'occupation israélienne. C'est juste un petit extrait, c'est juste une petite réalité parmi beaucoup de réalités, parfois beaucoup plus difficile aussi.
كل إنسان مؤمن بحقه وحق شعبه وحق وجوده.
Et n'importe quel être humain qui croit en son droit et en droit de son existence.
أكيد راح يعمل اللي أنتوا شفتوه وأكثر. أنا بعمل جزء بسيط صغير اللي شفتوه من اللي بيعملوه نساء فلسطينيات عظيمات أكثر بكثير. وأكبر دليل اليوم عندنا مناضلة مدرسة ليلى شهيد. أنا اسمي عبير الخطيب. أنا محامية.
Je suis
avocat.
بعمل ماجستير قانون حقوق إنسان.
ماستر dans le droit de l'homme.
والبكالوريوس تاعي قانون عام.
J'ai fait un bac de licence de droit général.
رحت درست القانون لأني عشت في بلد في وطن بيخضع تحت الاحتلال.
J'ai étudié le droit parce que j'habitais dans un territoire qui était dominé, qui était sous la domination.
أنا أم لثلاثة أطفال.
Je suis mère de trois enfants.
أنا من قرية شمال القدس.
Je viens d'un village au nord de Jérusalem.
تربيت وأنا صغيرة بين عيلة بيمارسوا الفلاحة الزراعة.
J'ai grandi dans une famille qui était des paysans.
بتذكر وأنا صغيرة وأنا عمري 8 سنين ستي كانت تروح تبيع الخضرة اللي بتزرعها باب العمود في القدس.
Je me rappelle quand j'avais 8 ans ma grand-mère allait vendre les récoltes qu'on avait dans le marché à côté de chez nous.
فكنا أنا وخواتي وولاد عمامي لأن إحنا عيلة كبيرة نتنافس مين اللي بدها تروح مع ستي على البيع في القدس.
Et donc moi avec mes frères et sœurs et mes cousins on était en compétition pour savoir qui allait accompagner ma grand-mère pour vendre justement le marché.
فستي العجوز أعطتنا خيار. كل اللي بيكون شاطر في المدرسة وبيجيب علامات عالية في المدرسة هي اللي بدها تروح معها على القدس.
Donc ma grand-mère nous a dit que c'est lui ou celle qui aura les meilleures notes à l'école va avoir l'honneur de l'accompagner vendre à Jérusalem.
فكنت أدرس كتير مش لأني بحب المدرسة كتير بس لأني بدي أروح على القدس مع ستي.
Donc j'étudiais beaucoup pas parce que je suis pas parce que j'aimais bien travailler, mais juste pour aller avec ma grand-mère à Jérusalem. Nous avons grandi dans les rues de Jérusalem, dans Bab al-Amoud et
Bab al-Isbat
à Jérusalem. Je connais très bien les rues, toutes les rues, je connais parfaitement en fait, je connais tout.
في 2006 2002 بلش الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري.
Et en 2002 l'occupation israélienne a commencé à construire un mur de séparation.
وبالتالي فصل 17 قرية فلسطينية من ضمن قريتي عن العاصمة القدس.
Et donc ils ont séparé 17 villages palestiniens et donc dans mon village de Jérusalem.
فالمدينة اللي أنا تربيت فيها وفي شوارعها وفي حواريها وفي مدارسها حكولنا إنها بطلت مدينة.
Et donc la ville dans laquelle j'ai grandi est devenue comme ça d'un coup soudain devenu, ce n'était plus mon pays, ce n'était plus ma ville.
Donc, 9 مستوطنات تم بناءها محيطة محاطة ب 17 قرية فلسطينية.
9 colonies ont été construites autour de 17 villages palestiniens.
من 20 عام لليوم 75 ألف مواطن فلسطيني فقدوا إقامتهم في القدس.
Depuis 20 ans, 75 000 habitants palestiniens ont perdu leur carte de résidence majoritaire. Et parmi ces habitants-là, il y a justement ma famille. Ils ont volé la moitié de la terre que mon grand-père a possédée. Et sur ces terres qu'ils ont volées, ils ont construit des colonies. Je ne pouvais voir jusqu'au balcon de
l'eau. En attendant.
Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant qui a 19 ans. Et mes enfants disent toujours que ça c'est les terres de mon grand-père.
الأرض أرضنا ومستحيل تتغير مسمياتها حتى لو هم بنوا مستوطنة وجدار.
Cette terre c'est la nôtre et ça va pas changer juste parce qu'ils ont construit des colonies.
في مئة شجرة زيتون رومية مزروعة في أرض سهيل اللي هي بنوا عليها مستوطنة جبعات زائف.
Il y a des centaines d'oliviers. D'arbres d'olives. Il y a des centaines d'arbres d'olives qui étaient construits qui étaient plantés dans ces terres-là, sur lesquelles ont été construites les colonies. Et mon grand-père avait hérité cette terre de son père et son père de son arrière grand-parent et ainsi de suite. On les a vus devant nos yeux enlever tous les arbres qu'il y avait et construire les colonies à la place.
حتى الشجر الزيتون شجر اللي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا سرقوه حتى يخلقوا إلهم تاريخ.
Même les arbres que nous possédions ils l'ont volé pour leur construire une histoire qu'ils ont pas.
وكل العالم بيعرف إنه هذا تاريخ مزور ومسروق هذا تاريخنا.
Et tout le monde sait que cette histoire-là, c'est une histoire qui est fausse et qui est volée, et c'est plutôt notre histoire à nous et pas à eux. Je vais vous décrire généralement ce qui se passe pour la deux histoires sur ce que vivent les Palestiniens sous la domination israélienne. Nous
sommes en 2022.
Nous sommes aujourd'hui en
2022.
Et il y a encore des enfants qui, pour aller à l'école, doivent passer par les montagnes et qui prennent aussi des ânes pour aller à l'école et revenir chez eux.
Dans la première nakba, 48, il y a eu un déplacement collectif pour les Palestiniens et leur évacuation.
Dans la première expulsion.
للعائلات الفلسطينية وترحيلهم من أراضيهم.
Dans la première expulsion en 1948, il y a beaucoup de familles qui ont été forcées de quitter leur territoire.
هاي العائلات انتقلت من أراضي 48 المحتلة عاشت على حدود 67.
Ces familles-là ont été obligées de quitter du coup leur terre et vivre sur les territoires de
1967.
Et donc ils ont été expulsés de force et ils ont été obligés de vivre chez nous dans des
Cisjordanie.
اليوم الاحتلال بيفرض على 148 تجمع بدني.
Aujourd'hui, la domination israélienne oblige 148 groupements des bédouins.
الترحيل والتهجير من مكان وجودهم.
D'être expulsé de l'endroit où ils vivent.
رغم انهم موجودين في اراضيهم من قبل 50 عام.
Malgré leur existence sur ces terres depuis même plus que 50 plus de 50 années.
التجمعات البدوية بتعيش في جبال فلسطين منتشرين في كل جبال فلسطين.
Le groupe des bédouins vivent dans tous les sont répartis sur les montagnes de Palestine.
والاحتلال بيبني المستوطنات على رؤوس جبال فلسطين.
Et l'occupation israélienne construise les colonies sur justement sur ces montagnes-là.
اليوم الخطة الاحتلال توسيع هذه المستوطنات وربطها في بعضها البعض.
Et le plan de l'occupation israélienne, c'est justement d'étendre ces colonies et de les relier les unes par rapport
aux autres.
Et donc, le Knesset, le Parlement israélien, a décidé, a accordé du coup de. Le droit de expulser les 58 groupements de bédouins qui vivaient dans les montagnes.
Donc,
comme je disais, pour éteindre justement les colonies et les relier les unes par rapport aux autres.
500 enfants palestiniens, من عمر 6 سنين ل 18 سنة, ما في عندهم مدارس.
500 enfants palestiniens de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans n'ont pas d'école.
وفي التجمعات اللي بيعيشوا فيها ما في كهرباء ما في مي ما في انترنت ما في شوارع.
Et dans le groupement dans lequel ils vivent, il n'y a ni internet, ni électricité, ni eau courante, il n'y a aucune condition de vie.
عانوا من التهجير الأول عام 48 وعانوا من التهجير الثاني 67 واليوم في عام 2022 خطة الاحتلال أيضا تهجيرهم.
Ils ont subi l'expulsion en 1948, subi également l'expulsion en 1967, et même aujourd'hui, en 2022, ils vont subir une troisième expulsion.
حوالي 100,000 مواطن فلسطيني اللي أنا بحكي لكم عنهم اللي هي التجمعات البدوية عدد السكان الكل 100,000 فلسطيني بعيشوا في خيمة وبيت من زينكو.
Environ 100 000 Palestiniens bédouins vivent dans des camps en fait. Justement, il n'y a aucune condition de vie. Même l'occupation trouvait ça difficile de voir des gens vivre dans des tentes comme ça.
بالتالي في قرار تهجير بأمر محكمة عليا إسرائيلية للمئة ألف مواطن فلسطيني.
Donc cette décision a été prise justement et accordée par le Parlement israélien.
بدأ التنفيذ من قبل 10 سنوات.
Et la réalisation a commencé depuis 10 ans.
هم بيهدوا وإحنا بنبني ونضل محلنا. هم بيهدوا وإحنا بنبني ونضل محلنا.
Eux, ils détruisent et nous, on reconstruit et on reste là où on est. Et ils détruisent à nouveau et nous, on reconstruit et ainsi de suite.
24 مدرسة تحدي وصمود هكذا سميناها. 24 مدرسة تحدي وصمود.
24 école en fait de résistance et de militarisme.
هيك احنا اطلقنا عليها الفلسطينيه.
C'est ce que nous avons appelé nous les Palestiniens.
المدارس التحدي والصمود هاي بدرس فيها 500 طفل فلسطيني.
Et ces écoles-là, il y a 500 élèves palestiniens qui y vont.
وهي عبارة عن مدرسة بتكون زينكو من الأطراف والسقف تاعها يا خيمة يا خيم قماش يا إما حديد زينكو.
Et ces écoles-là, en fait, sont construites en fait de comme des tentes en fait avec juste des fils et de l'acier.
هاي السقف الحديد الزينكو بالضبط. هاي المدارس ال 24 مدرسة ممنوع يكون فيها كهرباء. كمان البيوت التجمعات الفلسطينية ممنوع يكون فيها مي, ممنوع يكون فيها حمام, ممنوع يكون فيها مطبخ.
Et ces écoles-là, il y a ou même toute l'habitation palestinienne et ils ont en fait ils sont interdits d'avoir tout accès à l'électricité ou à l'eau ou même aux toilettes ou...
بقرار من محكمة الاحتلال.
Et ça, c'est justement accordé par la justice, par la cour de la justice
israélienne.
Même l'accès est interdit. Parce que la cour de justice israélienne a décidé justement à passer une loi pour détruire justement ces groupements
bédouins.
Et détruire ces 24 écoles qui ont été
construites.
Donc ils ont décidé, en fait, ils pensent en faisant ça de faire oublier en fait l'histoire de Palestine, mais bien sûr ça va pas marcher.
Bonsoir à tous, je m'appelle Ansam de
Naples.
Moi je suis d'un petit village qu'on appelle le village Beta. Je vais vous raconter pourquoi mon petit village s'appelle comme ça.
زمان كانوا كانوا الناس بس يخلصوا مناسك العمرة كانوا يروحوا كانت بيتا هي عبارة عن محطة.
Il y a longtemps quand les musulmans finissaient leur hajj, ils passaient en fait par ce petit village justement.
كانوا الناس يدخلوا بيتا يتريحوا ويناموا ويشربوا وبس يخلصوا راحتهم يكملوا طريقهم لبيوتهم.
Ils se reposaient dans le village et ils se reposaient, donc ils mangeaient, ils buvaient jusqu'à ce que le lendemain partent du coup dans leur destination finale.
في فترة الانتفاضة بيتا تعرضت لهدم بيوت ولتهجير أشخاص وقتل أشخاص واعتقال.
Au cours de l'intifada.
تمام تعرضت لهدم بيوت.
Le village a été détruit, donc.
وتهجير أشخاص واعتقالهم.
Et des personnes ont été expulsées, ont été arrêtées, enlevées.
والنقطة الأساسية القتل.
Et le but principal c'était vraiment de tuer les gens.
في 2020 طبعا بيتا حاليا محاصرة كلها بالمستعمرات.
Donc aujourd'hui Beta est totalement encerclée par les colonies israéliennes.
في 2020
en 2020
المستوطنين نزلوا على جبل اسمه جبل العرمة.
Les colonies sont descendues, les colons sont descendus sur une montagne qu'on appelle montagne de Arme.
بهدف السيطرة عليه.
Dans le but de le posséder, le contrôler.
أهل القرى طبعا اتصدوا لإلهم وحاربوهم عشان ما ياخذوا هذا الجبل كمان عشان ما يبنى عليه مستعمرة.
Et les habitants du village ont essayé donc de résister pour pas qu'ils justement construisent une nouvelle colonie sur cette montagne.
راح ضحيتين بهاي الفترة راح شهيدين بعمر 16 و17 سنة.
Il y a eu pendant cette période-là deux victimes, un de 16 ans et un de 17 ans.
وأهل البلد سيطروا على الجبل إنه ما يتم الاستيلاء عليه.
Et ils ont réussi à empêcher la construction de colonies sur cette montagne.
وتم بناء عليه مسجد عشان ما يقدروا مرة ثانية ينزلوا عليه.
Et ils ont construit à la place donc une mosquée pour qu'ils puissent pas justement prendre cette montagne.
فحكوا إن إحنا ما سيطرنا على الجبل نروح على جبل ثاني.
Et donc ils se sont dit que comme ils n'ont pas pu contrôler cette montagne-là, ils sont allés vers une autre montagne.
راحوا على جبل اسمه جبل صبيح.
Une autre montagne qu'on appelle جبل صبيح.
هذا الجبل نزلوا عليه يومين كانوا بس خيمتين. بعد أسبوع تحول لمنطقة كلها بيوت وتم تصفيه الطرق وعمل مدارس وعمل بيوت وألعاب وحدائق للمستوطنين.
Donc sur cette montagne, il y avait de base que deux tentes et en peu de temps, il y a eu des maisons, des parcs, des parcs d'attractions, des jeux, ils ont construit tout.
أهل القرية طبعاً برضو طلعوا على الجبل للمهاجمة المستوطنين. صار اسمهم حراس الجبل.
Et les habitants du village, ils sont encore une fois montés à la montagne pour défendre leur territoire. Et maintenant, on les appelle du coup les gardiens de la montagne.
طبعاً صار 11 شهيد.
Donc pendant cette période-là, il y a eu 11 victimes.
Et 3500 جريح.
Et 3500 blessés.
3500 جريح في منهم جرح سبع جرحى ما بيقدروا يتلقوا العلاج داخل فلسطين لانهم اصاباتهم بليغه ضرحوا عيونهم وفي اطفال امعاءهم خارج جسمهم.
Et parmi les 3500 blessés, il y a 7 dont on ne peut pas prendre soin en Palestine parce qu'on n'a pas les matériels nécessaires. Et parmi eux, des enfants qui n'ont plus d'œil ou qui ont tout l'intestin qui est hors de leur corps.
Je vais parler d'un shahid qui s'appelle Shahid Chadi. Shahid Chadi.
Je vais parler d'une victime qu'on appelle Shahid Chadi.
Parce qu'on a appelé le nom de Saqi al-Balad.
Et qu'on appelle aussi le...
Saqi al-Balad.
Qu'on appelle le verseur du pays, le verseur d'eau du pays.
هذا الشهيد كان كل يوم يصحى ويروح يتوجه لعمله اللي هو بروح أول البلد بيفتح المسلك المي ليدخل مي على البلد كانت البلد لها أيام محددة عشان تدخل لنا.
Et ce petit en fait il se réveille tous les jours le matin et aller très loin pour justement ouvrir les tuyaux d'eau et donner accès d'eau en fait au village.
طبعاً هو إنسان طبيعي رايح ماخذ أغراضه اللي هو مفتاح المي يتوجه هناك كان في نقطة عسكرية أطلقوا النار عليه بكل برود بهدف إنه هو جاي يعتدي عليهم.
Et donc c'était un enfant normal qui essaie justement d'avoir accès à l'eau, mais l'occupation a vu ça comme une sorte de menace et donc ils l'ont tué de manière très froide.
قبل وصول الطاقم الإسعاف الفلسطيني تم السيطرة على الجثمان الشهيد واحتجزوه لمدة شهر.
Avant que les urgences palestiniennes arrivent, le corps de la victime a été prise par les Israéliens pendant un mois.
طبعا احنا الشهداء عندنا اذا سيطروا عليهم الجيش قبل ما الوصول اهل البلد له بيتم اخذ جثمانه وتشريح جسمه واخذ الاعضاء منه.
Et en fait, si les soldats israéliens prennent justement le corps d'une victime, ils utilisent le corps, ils ouvrent le corps et prennent l'organe justement pour les utiliser quoi, chez eux. Oui, pour la transplantation d'organes.
بعد شهر طبعا أهل البلد كانوا يطلعوا كل يوم احتجاج لهاي الجريمة. بهدف إنه رجعها بعد شهر قدرنا إنه نرجع الشهيد لعائلته لهدف إنه دفن جثمانه في أرضه.
Donc depuis l'accident en fait tous les jours il y a eu des manifestations des habitants pour qu'ils puissent récupérer le corps de la victime et pour qu'ils puissent ensuite l'enterrer chez dans le village.
طبعا راح أحكي عن الطرق السلمية اللي كانوا الشباب يستخدموها للدفاع عن أرضنا.
Donc je vais parler des moyens pacifistes que les jeunes en fait utilisaient pour défendre notre territoire. Le premier moyen, on appelle chez nous la perturbation nocturne. Et le but en fait, c'est de montrer, de pointer avec des lasers les colons.
طبعا هو الهدف منه هدف انه ازعاج المستوطنين.
Le but c'est vraiment de perturber du coup les colons.
وثاني الطريقه كنا نجيب اطارات السيارات ويتم تجميعها في مكان اللي احنا نقدر نولعه وتطلع الدخنه على المستوطنين برضه بهدف ازعاجهم.
Et le deuxième moyen c'était de prendre des pneus et les récolter dans un endroit. Et puis de les mettre au feu pour que la fumée en fait justement aille vers les colonies et les colons et les perturber.
وحراس الجبل كانوا يحطوا سماعات كبيرة ونحط الأناشيد الوطنية والأذان وكل يوم جمعة كان يؤدوا صلاة الجمعة هناك وطبعا كانوا الجيش يعملوا يعرفوا إنه هم ما يقدروا يصلوا بهدف يرموا الرصاص عليهم والقنابل الغاز.
Et le troisième moyen, c'était que les gardiens de montagne dont on a parlé déjà, mettaient des grosses enceintes au sommet des montagnes pour les perturber, émettaient donc des musiques comme par exemple l'hymne national ou même faisaient la prière, en fait, ce qu'on appelle l'adhan chez nous, à travers ces enceintes. Et donc les militaires israéliens, ils ont essayé du coup de les tuer à travers du coup les
كان كل شاب كل يوم يطلع قبل ما يطلع يحكي لأمه يمكن أنا أرجع ويمكن ما أرجع ادعي لي وإذا أنا استشهدت ما تزعلي زغرتي.
Et chaque jeune en fait avant de sortir de chez lui disait à sa mère que je sais pas si je vais revenir ou si je vais rester vivant ou je sais pas si je pourrai revenir mais je demande juste de prier pour moi et si jamais je meurs il faut que tu sois contente et pas triste. Je meurs au sacrifice de mon pays.
في هاي اللحظة الأم هي ما مش عارفة هي تزعل هي تفرح هي تحكي له روحي تحكي له ارجع وقفت على نقطة ما تقدر تحكي فيها إيش مشاعرها بالضبط.
Et donc la mère, elle savait pas quoi dire, elle savait pas s'il devait laisser son fils partir, s'il devait le garder à la maison, s'il devait être triste, s'il devait être contente. Elle était dans une situation émotionnelle un petit peu particulière.
ففي المرأة كان لها دور كبير كان أول دورها هي الدعاء لكل شباب البلد ثاني نقطة كانت كل يوم
Et donc la femme avait un rôle très important parce que tout d'abord elle devait prier pour tous les jeunes avant de partir.
النقطة الثانية هي إنه كانوا يجتمعوا في مكان معين يعملوا لهم الأكل.
Le deuxième point c'est qu'ils se réunissaient en fait dans un certain endroit pour leur faire à manger.
عشان ما يقدر ما الشباب ما يكون لهم انه حجة ان نزلنا احنا عن الجبل عشان ناكل لا احنا كنا نعملهم الاكل ونوصلهم اياه سواء كان الاكل والشرب كان يوصلهم اياه عشان يضلهم مقاومين يضلهم بقوتهم للتصدي الاحتلال.
Donc le but c'était de les fournir en nourriture et en tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent résister avec tout le pouvoir qu'ils ont contre la domination israélienne.
بسبب الإصابات اللي عنا البليغة وسبب الشهداء اللي صاروا كل بيت فلسطين وكل بيت من هالقرية كان يوجد يا إصابة يا شهيد.
Et à cause justement de nombreux blessés et de nombreuses victimes qu'il y a eu dans chaque maison il y avait au moins une victime un blessé.
فما قدرت المرأة تضل قاعدة وساكتة حكت إنه أنا بدي أشتغل إنه أنا بدي أعمل مصروف لعائلتي. فتم عمل مشروع اللي هو الصابونة كانت تعمل صابونة ببيوتهم كانت تحط فيها روائح جديدة ليتم انه يكون عليها الطلب انها تقدر تبيع الصابونة.
Donc en fait la femme ne pouvait pas rester immobile, elle devait faire quelque chose, devait travailler, devait amener de l'argent à la maison et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont construit en fait ils ont créé donc des savons, des sortes de savons qu'ils vendaient justement pour ramener de l'argent à la maison.
طبعاً كانت تشارك مع الشباب بالجبل بالإسعاف الأولي كانت تأدي زي ما شفنا عمير كانت تيجي عنا على البلد وتساند الشباب في المقاومة.
Et donc ce qu'ils faisaient c'est qu'ils intervenaient en fait en cas d'urgence pour aider les blessés, aider les victimes et préparer aussi à manger s'ils ont besoin, comme ce qu'a fait Abir par exemple, fournir de la nourriture, fournir ce qu'ils ont besoin pour vivre.
انا كثير مبسوطه اني انا متواجده هون واول مره بقدر اطلع فيها خارج فلسطين واحكي عن القريه تاعيتي واحكي عن حال كل بلد بفلسطين.
Et moi je suis très content d'être ici et de pouvoir témoigner de mon village et c'est la première fois qu'ils sortent de la Palestine.
طبعاً برحلتي الأولى اللي كانت لفرنسا اللي قدرت أنا أطلع فيها الأول مرة في طيارة وأشوف بحر وأركب في قطار وأشوف المحيط أنا كثير مبسوطة وفخورة إني أنا بناتكم شكراً لكم كثير كثير كثير.
Donc c'était le premier voyage que je fais de ma vie, c'était le premier avion que je prends, la première fois que je vois la mer, la première fois que je vois l'océan, la première fois que je vois le train. Et je suis très content d'être là et très content de te rencontrer aussi, Laïla.
Inch'Allah. ان شاء الله اكون قدرت وصلت صورتي وزملائي قدروا يوصلوا صورتهم لكم
et j'espère que moi ainsi que mes collègues ont pu transmettre le message qu'ils ont voulu transmettre à vous.
Merci.
Alors maintenant, on va demander à Madame Laïla Chahid de bien vouloir venir jusqu'à nous. Je l'ai dit en introduction, je le redis, ça a été une gageure pour l'association France-Palestine Solidarité jusqu'au bout de réussir que ces trois jeunes puissent venir jusqu'à nous. Et donc cette tournée, c'est vraiment formidable à tous les points de vue. On est très très heureux. Et vraiment, si leur témoignage vous touche, alors c'est réussi. On est très très contents.
Bonsoir tout le monde. Je suis très émue parce que j'ai adoré ce que j'ai entendu de trois jeunes qui pourraient être mes enfants, tous les trois. Et comme je vous ai dit dans les multiples fois où j'ai intervenu avec notre chère mère Louis qui me fait parler tous les jours, c'est bien qu'elle ne vous a pas convoqué au petit déjeuner pour un discours. Nous avons 55 années d'occupation militaire officielle que le monde entier reconnaît comme une action illégale, comme une utilisation de la force, comme l'occupation de l'Ukraine par la Russie ou n'importe quelle autre occupation du monde, du Vietnam par les Américains, de l'Algérie par les Français, etc., etc. Mais ces jeunes gens n'ont jamais vécu que sous cette occupation militaire. Moi, je vous ai dit que je suis née en 49. Elle est née en 81. Où est-ce que vous êtes née? Hein? Oh! 98! Mais c'est un bébé! Il est en 99, il est né! Et je trouve absolument extraordinaire. Et elle a un nom très original, Ensam. Ensam vous a dit, c'est la première fois qu'elle monte dans un avion. C'est la première fois qu'elle voit le ciel d'en haut. C'est la première fois qu'elle voit l'océan. C'est la première fois qu'elle voit un train. Et le pays où elle arrive, c'est quoi? La France. Et la France l'invite à l'écouter, elle et Abir et Mohamed, pour savoir ce que c'est que de vivre sous l'occupation. Je disais à Daniel, c'est pas important que je parle, pas que je fasse de la fausse modestie, mais je parle depuis trois jours. Mais il faut que vous entendiez, et vous avez vu ce film, que vous entendiez ce que c'est que la vie quotidienne des gens sous l'occupation. Vous savez, on est harcelé, bombardé par les médias, les images, les réseaux sociaux, qui racontent des choses, beaucoup, beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations. Mais à un moment donné, on est tellement saturé que sur le plan humain, ça ne veut plus rien dire. Vous entendez, Gaza est assiégé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. La Cisjordanie, ils ont tué une journaliste qui était en train de filmer l'invasion par l'armée israélienne du camp de Jenin. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan réel de la vie des gens, des enfants, des vieux, des moins vieux, des malades? On ne sait pas. Donc j'ai adoré comment tous les trois, ils ont raconté, c'est pour ça parce qu'ils m'ont dit, moi je les rencontre chez vous, c'est grâce à vous que je les rencontre. Je ne les ai jamais vus avant. Et je leur dis, qu'est-ce que vous allez présenter? Puisque je savais qu'ils allaient parler avant moi. Et ils m'ont dit, on va raconter ce que c'est nos vies. Chacun, mais pas pour parler de nous, mais pour que les gens réalisent c'est quoi notre vie. Je dis, excellent. Parce que les discours de Laïla Chahid et d'un tel et de X, Y, Z, qui font de grands discours politiques où il y a soi-disant des négociations et des machins, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai tellement défendu l'idée que votre maire a décidé d'ailleurs, avec son conseil municipal, et avec Isabelle Tourjman, le meilleur moyen est d'aller voir avec vos propres yeux. Ça n'a même pas besoin d'un discours. Je ne peux plus supporter les discours. Les discours, étant dit, je veux dire, le récit. Hamad a dit une très belle phrase. Hamad a dit, vous ne savez pas comme c'est douloureux. Ah, comme c'est douloureux d'avoir un récit qu'on a envie de dire et personne n'est prêt à écouter. Cette phrase, elle est magnifique. C'est le récit des Palestiniens, le récit dans le sens d'un vécu. Et lui, il est né en 99, vous imaginez. Et donc, je trouve que le fait de pouvoir aller sur place avec un groupe de gens qui a en commun des valeurs, une éthique, une vision du monde commune, et qu'ensemble, vous ouvrez vos yeux, et juste pour regarder, vous n'avez même pas besoin de demander des explications, c'est plus beau et c'est plus fort que tout. Et donc, je vous conjure, allez dans cette délégation et dans les autres qui viennent. Il y a des délégations de jeunes, de moins jeunes, qui iront et qui continuent à aller, qui vont d'ailleurs depuis 30 ans, ce n'est pas nouveau. Mais c'est vrai que dans cette région de la France, c'est un peu nouveau, Isabelle. Donc, encouragez. Moi, ce matin, dans le journal, j'ai encouragé M. le maire de Pau de faire un jumelage avec la Palestine, parce que je ne comprends pas pourquoi Pau n'est pas jumelé avec la Palestine. Isabelle m'a dit, et Daniel m'a dit, que lorsque elle a été il y a 15 ans en Palestine et qu'elle est revenue, on lui a dit, oui, à une condition, on fait en même temps un jumelage avec Israël. Vous imaginez quelle prétention? Pourquoi est-ce que les Français vont obliger Israéliens ou Palestiniens à faire ensemble un jumelage? Pour qu'ils se prennent. Une puissance coloniale, elle n'est plus coloniale, la France. Et donc, c'est un manque total de tact, d'obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Moi, je fais beaucoup de dialogue avec les Israéliens, mais c'est moi et mes amis israéliens qui le décidaient, pas l'ambassadeur de France. Et donc, je dirais que Daniel a dit à l'époque que vous aviez refusé, en tout cas les amis de Pau avaient refusé, ils ont raison. Lorsque le temps sera mûr pour des jumelages tripartites, France, Israël, Palestine, les Palestiniens et les Israéliens le demanderont à Isabelle. Ils n'attendent pas que le gouvernement ou le maire élu le demande. Donc moi je voudrais, à partir de là, parce que je tiens beaucoup à ce que vous voyez la très belle pièce de théâtre que va jouer Sylvain tout à l'heure, Sylvain Machal. Sylvain Machal qui est un homme de théâtre, qui lui aussi a été en Palestine. Il pensait passer 3 semaines, il a passé 3 mois. Il est reparti de nouveau. Et comme il est un homme de théâtre, il a été voir une pièce de théâtre qui est une très belle histoire personnelle d'un grand poète palestinien qui s'appelle Mohammad Taha. Et il est maintenant décédé. Et Mohammad Taha a écrit un très beau texte qui est un peu une biographie de sa vie de palestinien. Et lui, il l'a vu jouer en anglais parce qu'elle a été traduite de l'arabe en anglais. Il a décidé de la traduire en français. Et tout à l'heure, il va vous la jouer. On joue ici, Daniel? Oui, il va la jouer ici. Donc je tiens à tout prix, c'est pas ici? À l'usine. C'est quoi l'usine? C'est dans le même... Ok. Ok, à l'usine. Alors je vous donne tous rendez-vous là-bas. Magnifique pièce. Donc je ne veux pas prendre sur le temps, parce que vous savez qu'est-ce qui va perdre le temps? La bouffe! Parce que celle qui a retardé, c'est le repas palestinien. Donc je vais essayer de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez, depuis maintenant 2 jours, vous avez vu 2 films. Un film sur les réfugiés palestiniens en Syrie, Little Palestine, très beau film. Un autre film, peut-être que vous allez avoir des surprises à propos, mais je ne peux pas dire plus que ça. Un autre film magnifique qui s'appelle Palestinienne, sur les femmes palestiniennes, la jeune génération palestinienne. Vous allez voir une pièce de théâtre. Vous avez entendu Leila Shahid continuer à baratiner tout le temps, encouragé par votre mère. Vous avez rencontré les gens avec qui vous avez parlé. Vous avez mangé palestinien. Et je voudrais remercier en particulier Youssef et Hadil. Youssef et Hadil, les 2 chefs. Alors Hadil, où elle est Hadil? Ah, Hadil, elle est derrière là-bas. Et Youssef, où il est? Il doit être en train de dormir, le pauvre, pour récupérer. Il s'occupe des enfants. Il a été faire une sieste, le pauvre chéri. Vous savez, à 2h du matin, ils étaient en train de couper encore des carottes et des concombres. Et on m'a dit que le déjeuner était magnifique. Moi, pour pouvoir vous parler, je n'ai pas mangé, mais j'ai mis de côté ma part. Ne vous inquiétez pas. Alors, je voudrais vous dire que pour moi, la coopération décentralisée, les jumelages, les échanges ont ce côté humain qui est très nécessaire dans les conflits politiques du monde. Pas seulement pour nous, pour les Africains, pour les Ukrainiens, pour toutes les personnes qui deviennent un sujet de la télévision et de la presse écrite et de la radio, qui, comme s'ils tapaient sur le nerf des gens, parce qu'il y a des gens qui disent « Je suis fatigué, Leïla, d'entendre parler de la Palestine et d'Israël. » Je les comprends, vraiment, je les comprends, parce que n'importe quel être humain a envie de sentir que les choses avancent, que on a parlé de la Palestine en 1948. Il y a eu la Nakba, ça veut dire on a expulsé les Palestiniens à 80% de leur pays. C'est les gens qui sont devenus réfugiés, que je vous ai présenté, Youssef et sa femme. Et maintenant, ils ne sont pas réfugiés, alhamdoulilah, Maïs et son mari. Mais il y a 6 millions de réfugiés. C'est peut-être le seul peuple au monde, depuis les Juifs, à être plus nombreux dans la diaspora que dans leur propre pays. Et il y a des réfugiés palestiniens dans leur propre pays qui s'appellent les réfugiés palestiniens en Palestine. Vous avez entendu parler d'un truc aussi fou? Alors, première guerre qui nous a coûté la disparition de notre nom. Il était écrit sur les cartes du monde Palestine. En 24 heures, comme pour les Ukrainiens, le mot Palestine a disparu. Maïs, qui habite chez vous ici, toi tu considères que tu habites en Béarn ou en...
Moitié.
En Pays Basque.
Moitié, pour être très diplomatique comme toi.
Oui, non. Je veux dire que elle a eu du mal à expliquer qu'est-ce que c'était qu'être palestinienne. Parce qu'elle est mariée à quelqu'un qui est de Gaza, qui à l'origine, comme moi, est un palestinien du Liban. Et donc, nous sommes encore. Moi, ma mère a écrit un livre parce que lorsqu'elle a voulu dire qu'elle était palestinienne, il a dit oui, israélienne. Et il lui a mis sur sa carte de séjour Israël. Elle lui dit, mais tu n'as pas le droit, je suis née en 1920, ça s'appelait la Palestine. Il lui a dit, l'ordinateur ne connaît pas la Palestine. L'ordinateur ne connaît pas la Palestine. Et donc, c'est vous dire que c'est très douloureux, mais surtout, on a l'impression que le plus on avance, on recule, on n'avance pas. En 67, il y a eu une nouvelle guerre, pas seulement contre les Palestiniens, contre les Jordaniens, contre les Syriens, contre les Libanais, contre les Égyptiens et contre les Palestiniens. Et nos armées glorieuses, nous les Arabes, ont perdu la guerre contre une armée israélienne en 6 jours. Elle s'appelle la guerre des 6 jours. C'était honteux. C'est là où j'ai commencé personnellement à militer après cette guerre-là, parce que j'étais humiliée que les armées de mes pays perdent en 6 jours. La réalité, c'est qu'on a perdu en 6 jours. Et donc, ils ont occupé de nouveaux territoires à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, dans le Golan syrien et le Sinaï égyptien. Après, ils ont bien voulu faire la paix avec les Égyptiens, les Jordaniens, mais bien sûr, les Palestiniens, c'était le plus difficile. Or, les Palestiniens, comme vous avez vu, ils vivent avec eux dans le même territoire. Il faut vraiment être une autruche pour ne pas voir qu'ils vivent dans les mêmes villes, ils sont pas dans les mêmes villages, parce que les villages ne sont pas des lieux d'urbanité, mais dans les villes, à Haïfa, à Jaffa, à Jérusalem, il y a des Israéliens et des Palestiniens. Donc, prétendre qu'il n'y a pas de Palestine est une politique d'aveuglement total qui ne peut pas construire un avenir, même pour le peuple israélien. Et donc, on a essayé un système de négociation internationale par les Nations Unies. On a attendu, les Palestiniens ont été très gentils, de 48 à 67, espérant que les Nations Unies vont mettre en œuvre des résolutions qui ont été votées. Lesquelles résolutions donnent le droit aux réfugiés de revenir chez eux, donnent le droit des Palestiniens à l'autodétermination, donnent le droit des Palestiniens de faire un État à côté de l'État d'Israël. Personne ne l'a mis en œuvre. Pourquoi? Parce que le monde était divisé en 2 blocs et le bloc fort était l'Américain. Les Israéliens avaient derrière eux les Américains et nous, on avait les Soviétiques qui ont perdu la guerre froide et donc rien ne s'est passé. On est revenu après 67, on a fait un mouvement de libération qui s'appelle l'OLP, et vous m'avez tous connu, représentant de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Pourquoi ce mot? Parce que pendant des années, les Palestiniens pensaient que c'était le roi de Jordanie qui allait défendre parce qu'il a une armée, ou Abdel Nasser, l'Égyptien, parce qu'il a une armée, ou le Syrien, parce qu'il a une armée. Voyant qu'on était en 6 jours d'effet, ils ont décidé qu'ils veulent faire leur propre organisation. C'est là que Yasser Arafat est apparu comme le père de la nation palestinienne. Et qu'il a été très courageux Parce qu'après avoir pris les armes, on a pris les armes, on a appris des Algériens, et je salue l'Algérie et le peuple algérien. On a appris des Algériens la lutte armée, parce qu'on ne peut pas libérer un territoire, ni retrouver sa dignité si on ne se bat pas pour ses droits. Les droits ne sont jamais donnés, ils sont toujours acquis par ta lutte, par ta propre lutte, arrachés par ta propre lutte. Et donc, on a fait la lutte armée, avec l'aide de nos amis algériens, de 65-66 jusqu'à Oslo. À Oslo, personne ne nous a obligés. Mais nous, nous avons dit, bon, parce que le monde ne peut plus continuer à s'entortuer, essayons par des moyens non violents. Et donc, on va faire une tentative de négociation par des moyens non violents. C'est ça, Oslo. Et donc, on a fait une période intérimaire pour une période finale. Vous savez quel âge a Oslo ? Oslo est plus vieille que les Trois. 29 ans. Ça fait 29 ans qu'on nous promet que les accords d'Oslo vont nous donner un État. 29 ans, c'est 93. Et donc, vous imaginez, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas désespérés ? Tout à l'heure, un journaliste qui m'interviewait m'a dit, mais vous n'avez pas peur que les jeunes soient enragés contre le monde, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent et que rien ne se passe et qu'ils voient qu'en Ukraine, bravo pour le peuple ukrainien qui est très courageux, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine a une peau blanche ? Parce que l'Ukraine est chrétienne ? Parce que l'Ukraine est une nation européenne ? Et que nous, on n'aurait pas le droit d'être protégés par le droit, par la diplomatie internationale ? Et les Ukrainiens seraient des surhommes ? C'est ça qui fait du racisme. Je dis bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur parce que moi, je ne vis pas sous l'occupation comme eux. L'occupation est quelque chose de... Ils peuvent perdre des parents, des frères, des sœurs, être handicapés, comme elle vous a dit. Il a les intestins à l'extérieur de son ventre, 7. Et ils ne peuvent pas être soignés. D'autres ont perdu leurs yeux. Et ils n'ont pas le droit d'aller se faire soigner à l'extérieur. Ils n'ont même pas de passeport pour sortir. Et donc, bien sûr, il peut y avoir une frustration, une colère, même un retour de très grande violence. Personnellement, j'ai passé, je vous ai dit, j'ai 73 ans. J'ai passé ma vie à militer, pas seulement pour la Palestine, pour l'Algérie. Je dis à une de nos amies ici présente, j'ai commencé par militer pour l'Algérie. J'ai milité pour mai 68. J'ai milité pour les travailleurs immigrés. J'ai milité pour le Liban, laïque. Et j'ai milité beaucoup pour la Palestine. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la force de faire ce que j'ai fait pendant 30 ans. Par contre, j'ai trouvé que de toutes les choses que j'ai faites dans cette carrière de militante, je déteste qu'on m'appelle ambassadeur, je suis une militante de la cause palestinienne. Et je suis la plus privilégiée parce que je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu eux. La plus belle chose que j'ai fait, c'est deux choses. Deux grandes expositions culturelles où j'ai fait appel à mon grand ami et notre immense poète Mahmoud Darwish qui m'a beaucoup aidée. Une qui a duré pendant 3 mois en France, à Paris, mais à Marseille, à Reims, dans plusieurs endroits. Et une autre en Belgique parce que j'étais ambassadeur à l'Union européenne pendant 10 ans. Donc tout ce qui était culture, on a publié, on a traduit les romans, on a traduit les poèmes, on a amené des cinéastes, on a fait des concerts de musique. Et ça c'est très bien, ça a eu un succès monstre. Parce que quand vous êtes des vraies démocraties, vous faites aussi de la diplomatie culturelle, vous comprenez. Ça veut dire, moi j'ai appris ça chez les Français, je ne connaissais pas ce que c'est la diplomatie culturelle. Et c'est bien sûr les Français qui ont financé, et les Belges qui ont financé les billets d'avion et les hôtels et tout ce qu'il fallait pour avoir un budget. Nous, on n'en a pas les moyens. Et ça a très bien marché avec le public. L'autre chose que j'ai adorée pendant mes 30 ans de travail pour la Palestine, c'est la coopération décentralisée, les jumelages, les échanges entre jeunes. Parce que j'ai commencé même avant qu'ils ne commencent avec les camps. Mais il faut que je reconnaisse que je faisais des jumelages de ville à ville, pas de ville à camp de réfugiés. Mais c'est une idée brillante de faire la relation entre camps de réfugiés et villes françaises. Parce que le cœur du problème palestinien, c'est les réfugiés. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, 2/3 de la population palestinienne est réfugiée. Et ils viennent de la raison du conflit, qui est la dépossession de la terre de Palestine pour les Palestiniens. Lesquels Palestiniens ont la magnanimité de ne pas redemander qu'on restitue 100% de ce territoire ? Ce que nous nous avons demandé, c'est 22%. Le territoire qu'on appelle Cisjordanie, Gaza, Jérusalem, Est comme capitale, ça ne fait que 22% de ce qu'était la Palestine historique, pour qu'Israël continue à vivre sur les 78 qui restent. Et même ça, ils n'ont pas voulu. Mais comment se fait-il qu'ils peuvent se comporter comme un État au-dessus de la loi ? Parce que vous leur permettez, vos États leur permettent. Vous imaginez comment on a puni Poutine on n'a pas fait une sanction, ni économique, ni commerciale, ni écologique, ni éducative. Moi, je ne veux pas de guerre, même pas contre Israël, mais au moins des sanctions. Parce que lorsqu'ils violent le droit, ils ne vont pas soudain devenir gentils et dire « on ne va plus violer le droit parce que la France nous a demandé ou l'Union européenne nous a demandé ». Il faut être sérieux, sinon ils se moquent du monde. Et moi, j'ai trouvé que ce discours sur le processus de paix, c'est de l'imposture. Ne permettez plus à personne de vous dire qu'il y a un processus. Il n'y a pas. Il y a eu quelques mois au début des accords d'Oslo, ils ont disparu à l'assassinat de Rabin. Et Rabin a été assassiné parce que lui, il voulait vraiment mettre en œuvre les accords d'Oslo. Mais c'est le seul. Pérez n'était pas comme lui. Et depuis qu'ils l'ont assassiné, il n'y a plus de négociation. Mais ça ne veut pas dire que nous allons vivre, puisque mon intervention s'appelle « Quel est l'avenir des Palestiniens ?» Vous avez vu comme elles sont fortes ? Moi, je regardais le film, je me disais « Ah bien, c'est Rosa Luxembourg !» Je sais qui c'est Rosa Luxembourg. Et donc, « Khaled, Khaled, enti, enti, mahdan Khaled. » J'écoute mon amie et elle vous raconte comment ils montent dans la montagne. C'est pas qu'ils attendent que l'armée vienne chez eux. Eux, ils vont affronter l'armée pour défendre leur montagne. Et donc, cette génération, et Mohamed pareil, cette génération, elle est plus forte que toutes les armes et les missiles et les tanks parce qu'ils veulent vivre libre, parce qu'ils savent que le droit est... Et d'ailleurs, toutes les deux ont parlé de résistance non violente. C'est très important. Les trois ont dit, eux, ce qu'ils appellent la résistance populaire, c'est une résistance non violente. Il est évident que si on va se mesurer au niveau des armes, on serait débile, puisqu'ils ont 200 têtes nucléaires. Qu'est-ce qu'on va utiliser, nous ? Les petits Kalachnikov qui ne valent rien, et ça ne sert à rien parce qu'ils sont plus forts. Par contre, la résistance populaire, l'unité d'une société qui a inventé le mot intifada, ça veut dire soulèvement. Ça veut dire se remettre debout, reprendre confiance en soi, s'affirmer, affirmer sa dignité. Lui aussi est un Palestinien, né en Syrie, mais aujourd'hui citoyen français. Et donc, ils ont la possibilité aujourd'hui de faire un combat qui est internationaliste et pas seulement nationaliste. Ils n'ont pas besoin donc qu'on regarde la couleur de leur peau ou qu'on leur demande s'ils sont chrétiens ou musulmans ou juifs, s'ils sont de droite ou de gauche. Tout ce qu'il faut, c'est reconnaître qu'ils ont les mêmes droits que tous les êtres humains sur Terre. Et lorsqu'ils vous trouvent des gens comme vous, et vous êtes nombreux à venir assister à tout ce week-end magnifique, et vous m'avez fait l'honneur de m'inviter comme invité d'honneur, je crois que ça nous met sur le chemin de quelque chose qui peut obliger le monde à reconnaître nos droits et nous aider avec nos amis israéliens, parce qu'on a quand même aussi des amis israéliens qui ne peuvent plus supporter d'être ni un État raciste, ni un État d'occupation, ni un État d'apartheid. Vous savez, dans une année, il y a une organisation israélienne magnifique qui s'appelle B'Tselem, Organisation des droits de l'homme qui milite en Palestine. Il y a Amnesty International, il y a Human Rights Watch, il y a la Commission pour les droits de l'homme des Nations Unies qui ont dit officiellement dans des rapports que Israël est un État d'apartheid, le nouveau État d'apartheid après la disparition de l'Afrique du Sud. Vous ne trouvez pas que c'est tragique qu'un peuple qui a souffert autant que le peuple israélien ou le peuple juif, on peut dire comme on veut, se retrouve pointé du doigt comme un État d'apartheid, se trouve nommé comme le dernier état d'occupation militaire dans le monde. Et donc moi je pense que nous avons une responsabilité de faire aujourd'hui une lutte qui n'est pas seulement limitée à la Cisjordanie, à Gaza, elle doit être mondiale, elle doit être déterritorialisée. Tu as des gens en Europe, tu as des gens en Amérique, tu as des gens au Canada, tu as des gens en Israël, on a 2 millions de Palestiniens en Israël, on a des Palestiniens dans les pays arabes. Et ce combat, il ne peut pas être solitaire. Il faut qu'il soit avec des citoyens de tous ces pays. Et comme moi, Isabelle, on milite en France, j'espère que vous le ferez avec nous et avec eux. Et je viens de leur proposer d'adhérer à leur association pour les aider. Et je vous embrasse tous.